Et c'est le journal de Sébastien Legenie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une chorégraphie en apesanteur. Thomas Pesquet ressort dans l'espace aujourd'hui. 6 heures passées au-dessus de la Terre pour changer un panneau solaire. Il nous raconte et notre spécialiste science nous explique. Ça plane aussi pour les Bleus qui l'emportent 1-0 au bout d'un match très musclé hier soir contre l'Allemagne. Début impeccable pour la France dans l'Euro de football et tout particulièrement pour le milieu de terrain des tricolores incontournables. J'ai nommé Paul Pogba. À suivre aussi, l'Inde toujours traumatisée après la troisième vague dévastatrice de Covid. Reportage sur les séquelles psychologiques de la pandémie. Après 7 jours de quarantaine, Jean Castex était testé négatif ce matin. Il repart en campagne dès aujourd'hui. Et pour finir, des tigres préhistoriques en 3D. Le Muséum d'Histoire Naturelle se lance dans la réalité augmentée.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui Suliane Brahim de la Comédie Française. Elle est à l'affiche de La Nuée de Juste Philippot. C'est un film Inter qui sort aujourd'hui dans les salles.
France Inter.
Il est à quelques heures, Sébastien, d'un nouveau grand saut dans le vide intersidéral.
Oui, il sera 14h, Nicolas, quand Thomas Pesquet ouvrira la porte de la Station Spatiale Internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Ce sera sa troisième sortie dans l'espace depuis qu'il est astronaute. Un exercice de haute voltige qu'il comparait il y a 4 ans à une forme d'alpinisme. On l'écoute.
C'est un peu le rêve dans le rêve. Hein. C'est la manière ultime de voler, en fait. On devient nous-mêmes un objet volant, en fait. C'est un peu les mêmes sensations, la même idée quand chute libre, une mince couche de plexiglas et de l'autre côté, le vide du cosmos, on fait de l'escalade en armure. En fait, c'est ça la meilleure métaphore de la sortie extravéhiculaire, c'est qu'on a les mêmes règles de sécurité qu'en escalade ou qu'en via ferrata. Il faut à tout prix rester attaché à la paroi à tout moment. Et puis ce scaphandre, il est aussi encombrant qu'une armure. Hein, maintenir une personne en vie dans le vide de l'espace, ça se fait pas comme ça. Donc on a dans le sac à dos tous les systèmes nécessaires, tous nos outils évidemment, mais c'est le prix à payer pour sortir.
Voilà de l'escalade. Là, dans armure, Thomas Pesquet qui sait trouver les images. Cette sortie extravéhiculaire, comme on dit, en binôme avec l'Américain Shane Kimbrough, doit durer plusieurs heures. Mais à la différence de ses premières sorties en 2017, cette fois-ci, ce sera lui le chef, Sophie Bécherel.
Lors des sorties dans l'espace, un détail sur les scaphandres permet de repérer qui est qui. Cette fois-ci, Thomas Pesquet portera la combinaison avec bande rouge, celle du leader. Il y a 4 ans, les rôles étaient inversés. Shane Kimbrough, déjà aguerri, avait encadré le Français pour sa première expérience. Une sortie extravéhiculaire, comme on dit dans le métier, reste un moment à la fois exaltant et périlleux pour les astronautes. Certains n'en feront jamais pendant leur carrière. Seuls ceux qui ont montré leur aptitude en piscine au moment des entraînements seront désignés. Pour le binôme franco-américain, il s'agit d'installer de nouveaux panneaux solaires afin d'augmenter l'énergie de l'ISS de 20 à 25%. Les anciens panneaux arrivent en fin de vie après 15 ans de fonctionnement. Les nouveaux ont été livrés par un vaisseau ravitailleur de SpaceX il y a 10 jours, enroulés comme des crêpes et non repliés, ultra fins, ils seront positionnés au bout de la station grâce au bras robotique canadien, puis ajustés par les deux astronautes. C'est une chorégraphie complexe que les deux hommes vont effectuer pendant 6h30, guidés en permanence par Houston. Toute l'opération est filmée et retransmise en direct par la NASA.
Voilà Sophie Bécherel, spécialiste science à France Inter.
7h33, Sébastien, on le surnomme la pioche et il a fait des étincelles hier sur la pelouse de l'Allianz Arena.
Paul Pogba, désigné homme du match hier pour le choc France-Allemagne à Munich qui s'est terminé sur une victoire rassurante des Bleus 1-0. Pogba impérial hier soir à l'image du 11 tricolore. Solidaire et efficace, Stéphanie Mora.
Plus d'une fois, les grands compas de Pogba, ses grandes jambes font mine de s'en mêler, de marcher sur le ballon. Plus d'une fois, il semble en déséquilibre, brinque-ballé par les Allemands. Et pourtant, en une seconde, il remet l'attaque française sur le chemin de la cage de Neuer. Mais faites-lui remarquer...
Non, c'est pas moi.
Il s'efface aussitôt.
C'est vraiment cette vie de groupe qui m'aide à être moi-même et à me sentir libéré et à être bien aussi sur le terrain. La force, c'est vraiment le collectif.
Le collectif a largement profité de son abattage hier soir à Munich. Pogba a récupéré une quinzaine de ballons dans les pieds allemands, remporté 13 duels sur 20. Pour le consultant foot de Radio France, Jérôme Alonso, on redécouvre un bleu précieux.
Son rôle a été sous-évalué lors de la Coupe du Monde 2018. C'est pas le plus âgé, mais il agit souvent en grand frère. Et même quand il y a des moments chauds dans un match, c'est lui qui vient calmer, qui vient donner de la voix. Et c'est un guide pour tous les autres.
À 28 ans, le longiligne milieu de terrain semble avoir déjà oublié sa saison chaotique avec Manchester United, prêt à enjamber l'Euro.
Stéphanie Mora, prochain match de la France samedi contre la Hongrie, battu hier 3-0 par le Portugal de Ronaldo. A noter enfin cette mauvaise pub pour Greenpeace qui a voulu se rendre visible en faisant arriver par les désert hier un ULM sur la pelouse dans le stade, sauf que le militant de ce parapente à moteur s'est pris dans un câble, faisant au final 2 blessés. Pas d'ULM en revanche dans le ciel de Genève. Aujourd'hui, la ville est totalement sous cloche depuis quelques jours. 3500 policiers et militaires mobilisés et pour cause. Genève accueille ce midi un sommet très attendu entre Joe Biden et Vladimir Poutine, un entretien qui doit durer 4 à 5 heures. La pandémie toujours sur une pente descendante en France. On est repassé hier sous la barre des 2000 malades hospitalisés en réanimation, une première depuis la mi-octobre. Nombre de nouveaux cas en 24 heures, 3235 contre plus de 15 000 il y a un mois. En Inde, le pire est passé, mais l'épidémie reste virulente. Là-bas, 60 000 cas encore par jour, 5 fois moins toutefois qu'en avril-mai. La vie commence à reprendre son cours normal, mais le souvenir de ce printemps meurtrier reste dans toutes les têtes comme une blessure psychologique. Reportage de notre correspondant Sébastien Farcy.
Taoukir Hussein est journaliste à New Delhi. Au plus fort de la crise, il se rendait dans les hôpitaux débordés pendant la journée et le soir, il aidait ses proches malades à trouver un lit. Puis un jour, il apprend qu'un ami de 34 ans est mort du Covid car il ne pouvait trouver d'oxygène. C'est le début d'une descente aux enfers.
Mon cœur s'est arrêté. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des crises de panique qui ressemblaient à des crises cardiaques. Et cela revenait dès que je devais écrire sur le Covid. J'avais peur de mourir et je n'avais jamais vécu cela, même en couvrant des conflits.
Proche de défunts ou simples résidents effrayés, une grande partie de la population indienne souffre aujourd'hui de troubles psychologiques. Le chaos sanitaire a fait place au chaos émotionnel, explique Shriyade, psychologue à New Delhi.
Ces dernières semaines, 5 de mes patients ont été affectés par un burn-out émotionnel. Ça entraîne des angoisses, une baisse de la concentration et de la motivation.
Les besoins de soins sont importants, mais en dehors des grandes villes, les Indiens vont rarement voir un psychologue par manque de moyens ou par peur des jugements. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et puis ajoutons ce chiffre aux États-Unis avec ce seuil symbolique dépassé. 600 000 personnes sont mortes du Covid outre-Atlantique. Jean Castex, lui, va pouvoir reprendre ses activités en présentiel. Extrait ce matin d'un court communiqué de Matignon. Le Premier ministre, sorti de son isolement sanitaire, il a été testé négatif. Il attend désormais avec impatience de repartir sur le terrain pour soutenir les candidats de la majorité et son agenda. Simon Le Baron est très chargé.
1500 km et 5 régions en 3 jours. Jean Castex veut rattraper le temps perdu. Il avait été coupé dans son élan mercredi dernier après une première sortie à Rungis avec le candidat marcheur en Ile-de-France Laurent Saint-Martin. Alors il a fait rentrer son planning au chausse-pied. Cet après-midi, Centre-Val de Loire avec Marc Fesneau. Demain, en une seule journée, Grand Est avec Brigitte Klinkert, Bourgogne-Franche-Comté avec Denis Thuriot, Auvergne-Rhône-Alpes avec Bruno Bonnel. Et vendredi, Nouvelle-Aquitaine avec Geneviève Darrieussecq. Il veut mettre en lumière les régions qui passent un peu sous les radars, explique Matignon. Mais le Premier ministre veut surtout mettre les mains dans le cambouis de la politique. Depuis un an, il a été aspiré par le Covid, constate un proche. Pourtant, il sait faire, conseiller départemental, conseiller régional, maire, les campagnes locales. Ça le connaît. Jean Castex a donc enfin l'occasion de changer son image, prouver qu'il n'est pas qu'un gestionnaire, loin d'être inutile pour la suite, alors que certains macronistes voudraient un Premier ministre au profil plus politique pour mener la bataille de 2022.
Simon Le Baron, le Premier ministre donc en campagne et le chef de l'État, lui, visitera le premier salon professionnel à rouvrir ses portes aujourd'hui, le Vivatech Porte de Versailles à Paris, avec des invités de prestige, le patron d'Apple et de Facebook, 1 millier de start-up réunis pendant 4 jours, les start-up françaises pourvoyeuses de dizaines de milliers d'emplois dans les années à venir, Laurent Kramer.
Dans les 4 années qui viennent, les 120 plus grandes start-up françaises vont engendrer à elles seules 224 000 emplois. L'étude du cabinet Roland Berger souligne que ces 120 start-up françaises porteront donc plus de 6% de la croissance du PIB français. La France compte aujourd'hui 15 licornes start-up dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. Aujourd'hui, dans l'agriculture, la santé, les transports, des start-up qui ont désormais un effet visible sur la croissance et l'emploi, souligne le secrétaire d'État au numérique Cédric O.
Ouais, je crois qu'on est vraiment à un point de bascule économique aujourd'hui. C'est que ces entreprises qui jusque-là étaient des PME sont en train de devenir des ETI, voire des grandes entreprises françaises, et qu'elles constituent aujourd'hui un moteur de la croissance à la fois nationalement, mais également dans tous les territoires. Et quand on regarde les emplois qu'elle crée, on se rend compte qu'aujourd'hui, elle représente entre 150 et 200 000 emplois, qu'elle va en créer plus de 200 000 autres dans les années à venir. Donc, c'est en train vraiment de devenir un moteur de la croissance française et de l'emploi en France.
Des startups qui embauchent également sur l'ensemble du territoire et se sont délocalisées en dehors des métropoles, bien avant la crise Covid.
Laurent Kramer se rappelle pour les Parisiens, après les voitures, les motos, les scooters dans la capitale vont devoir passer aussi à la caisse. C'est l'une des décisions les plus spectaculaires hier de la mairie de Paris, faire payer le stationnement aux deux roues à moteur thermique dès 2022. Deux fois moins cher toutefois que les voitures et ce sera gratuit pour les scooters électriques. Autre mesure forte, la hausse du prix du stationnement pour les voitures cette fois dans Paris. 6 euros au lieu de 4 euros par heure suivant les arrondissements et des amendes de 75 euros au lieu de 50 dans le centre de la capitale.
Et on termine Sébastien avec un grand pingouin en trois dimensions.
Le grand pingouin Nicolas disparu, vous le saviez depuis des milliers d'années, mais que le Muséum d'Histoire Naturelle fait revivre grâce à la technologie de la réalité augmentée, un parcours baptisé tout simplement Revivre Sandy Dauphin.
Sur votre droite, dirigez-vous vers le grand pingouin.
Le visiteur pénètre dans la pénombre de la salle, enfile des lunettes de réalité augmentée et se laisse guider.
Ces oiseaux, incapables de voler, étaient faciles à attraper et fournissaient une viande et une huile appréciées des humains.
Pendant 15 minutes, les hologrammes déambulent devant les boiseries et les vitrines d'époque.
Avancez !
Un cousin du lamantin, la rétine, nage au-dessus de vos têtes, un tigre à dents de sabre observe, un dodo de l'île Maurice s'approche. Pas facile de modéliser en 3D et d'animer ces espèces disparues depuis longtemps, explique le cofondateur du studio Saola, qui a coproduit ce parcours de réalité augmentée, Jérémy Frey.
On est face à des espèces qui ont disparu il y a longtemps, donc forcément il n'y a pas de photos, il n'y a rien qui existe. Et donc on a récolté témoignages, dessins, gravures, dans les ouvrages, aussi dans les observations de familles cousines d'animaux qu'on a pu observer aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple de la tortue de Rodrigue, qui a ce long cou qui s'allonge sur plus d'1,50 m. Ben, elle a une cousine qui existe encore, qui est la tortue de l'île Maurice, et que nous, on a filmé sur des tournages de documentaires animaliers.
Un travail mené avec les scientifiques pour mettre en valeur la salle des espèces menacées et disparues du muséum. Une expérience immersive et poétique pour sensibiliser les visiteurs sur l'extinction du vivant.
Voilà, revivre, ça commence aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle. Pensez à réserver votre créneau horaire.
Merci mon petit pingouin. C'était le journal de Sébastien Legénie, l'édito politique.